Interview.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Aujourd'hui, je me retrouve encore avec Bruno Monnier, géobiologue installé à Saillant depuis cet été et avec qui nous allons faire la quatrième émission d'un cycle sur un habitat sain. Alors la première était consacrée, vous le rappelez sans doute, aux ondes électromagnétiques basse fréquence, la deuxième aux ondes électromagnétiques haute fréquence. La troisième, à la qualité de l'air en général et de ses polluants et des précautions à faire pour s'en protéger. Enfin, aujourd'hui, nous allons parler d'un gaz imperceptible, inodore, mais ceci dit, éminemment dangereux, le radon, dont je ne sais pas grand-chose. Monsieur Monnier, bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que le radon et pourquoi faut-il s'en protéger? Alors, c'est une question très générique, ça vous lance pendant peut-être un quart d'heure, voire plus.
Oui, peut-être plus même. Donc effectivement, on va parler de radon aujourd'hui. Ça fait suite en fait à cette problématique de qualité de l'air de la dernière émission. On est toujours dans la qualité de l'air, puisque le radon, c'est un polluant de l'air. Et pourquoi il est nécessaire d'en parler? Eh bien tout simplement parce que c'est un polluant majeur aussi. C'est même pour moi l'un des polluants les plus importants et auxquels il faut vraiment faire attention. D'autant qu'on a des techniques de remédiation, enfin qu'on peut éviter cette problématique assez facilement, en tout cas dans les principes constructifs. Donc dès l'instant où on est dans une construction neuve, on peut construire en tiradon assez facilement dans une habitation existante. Éviter la problématique du radon peut se faire également, c'est des fois un peu plus compliqué. Tout va dépendre de la concentration. Donc d'où vient ce radon? Donc ce radon, c'est d'abord un gaz, il faut le dire. C'est un gaz qui fait partie des gaz rares. Et cette expression de gaz rare chimique ne veut pas dire qu'il n'y en a pas partout. Au contraire, le radon, c'est un gaz qu'on retrouve partout à la surface de la Terre. On dit gaz rare parce que c'est un gaz qu'on ne peut pas exploiter. Il n'y a pas de poche, de réserve de gaz. Il s'émane du sol sur toute la surface du globe. Et il fait partie des gaz lourds également, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il ne s'échappe pas et qu'il ne monte pas dans l'atmosphère. Il monte quand même dans l'atmosphère, mais il a tendance à être un peu plus lourd que d'autres gaz plus courants.
Que l'air, donc en fait, il stagnerait en bas du sol, non?
Voilà, mais il s'échappe quand même du sous-sol pour aller à l'air quand même. Même un gaz lourd, il ne s'enfonce pas, il s'échappe du sol, mais évidemment, il va s'échapper moins vite du sol que d'autres phénomènes gazeux.
Oui, mais s'il est vraiment lourd et qu'il est plus lourd que l'air, il aurait tendance à rester près du plancher, quoi.
Non, mais gaz lourd, c'est comme gaz rare, c'est des dénominations techniques, chimiques. Pour identifier des gaz, ça ne veut pas dire que ce gaz est plus lourd que l'air. Au contraire, il n'est pas plus lourd que l'air, donc il s'échappe quand même. Mais après, disons que son exhalation du sol est naturelle et après on a un problème domestique effectivement lié à l'habitation qui va aspirer davantage ce gaz. Donc ça, je vais rentrer un peu plus techniquement pour expliquer ce qui se passe. Le bâti sur le sol va aspirer un peu plus le gaz qu'à l'air libre. Donc on y reviendra tout à l'heure. Donc d'où vient ce gaz ? Eh bien, effectivement, il vient du sous-sol et il vient plus précisément de l'élément qui s'appelle uranium-238. Donc tout de suite, uranium, évidemment, ça fait penser à radioactivité, à centrales nucléaires, etc. Alors, il faut savoir que dans les éléments uranifères, il y a plusieurs types d'uranium. Et l'uranium qui sert à faire fonctionner nos centrales nucléaires, c'est l'uranium-235, qui est assez rare sur la Terre, à tel point qu'en France, il y avait des mines d'uranium-235, mais qu'elles ont été fermées parce que pas assez rentables, en fait. Ça coûtait trop cher d'exploiter ces mines par rapport au peu d'uranium-235 que l'on trouvait. Par contre, l'uranium-238 qui est à l'origine de ce fameux radon, il y en a partout. Donc dans cette émission, on va essayer d'aussi d'enlever pour les gens qui connaissent un peu cette problématique du radon, beaucoup d'a priori et beaucoup d'éléments faux qui sont dits, enfin pas faux, mais qu'on a tendance à mettre en avant sur ce radon. Le premier, c'est que le radon ne serait issu que du granit. Donc ça, c'est faux. Comme je viens de le dire, le radon est issu de l'uranium-238 et cet uranium-238 se trouve effectivement dans le granit, mais pas que. On trouve l'élément uranium-238 dans les schistes. D'accord. On trouve l'uranium-238 dans les phosphates et dans les roches métamorphiques que peuvent être les roches volcaniques, par exemple. Et on trouve également cet uranium dans certains calcaires particuliers uranifères. D'accord. Donc effectivement, souvent, les gens qui connaissent un petit peu le radon disent « oui, le radon, c'est en Bretagne ou dans le Massif central parce qu'il y a beaucoup de granit ». Effectivement, on va dire les plus fortes valeurs mesurées sont surtout dans ces zones-là, donc Bretagne, effectivement, Massif central et Corse. Mais il y en a un peu partout. Hein. C'est pas parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup là-bas qu'il n'y en a pas du tout ici. Hein. Donc, par rapport à ces roches, à ces situations géologiques qui peuvent générer du radon, en France, il y a une réglementation qui stipule que 31 départements sont à risque radon. Hein. Ce classement a été fait suite à des études réalisées dans les années 80, des études officielles, pour lesquelles 18 000 mesures ont été faites sur le territoire, et ces 18 000 mesures ont pu définir des niveaux moyens d'exposition au radon, et pour lesquelles on a défini que 31 départements étaient à risque radon. Donc effectivement, la plupart de ces départements se retrouvent en Bretagne, Massif central, un peu dans le Jura, un peu dans les Pyrénées, en Corse, et aussi dans notre région, parce que dans le Rhône-Alpes, par exemple, à part la Drôme, qui ne fait pas partie de ces 31 départements à risque radon, l'Ardèche en fait partie, le Rhône en fait partie, les Hautes-Alpes en font partie également. Donc les départements qui sont autour de la Drôme font partie des départements à risque. Bon, alors ce classement des 31 départements à risque, il faut savoir qu'il est très contesté par certains professionnels de l'habitat sain et de la problématique du radon. Alors pourquoi ce classement est contesté ? Parce que premièrement, 18 000 mesures, c'est pas beaucoup sur un territoire comme la France, sur 550 000 km² et plusieurs millions d'habitations. En Angleterre, pour faire à peu près la même étude, ils ont fait 500 000 mesures. En Norvège, ils ont fait 300 000 mesures. Donc avec 18 000 mesures, c'est un peu juste pour évaluer vraiment la problématique du radon, la concentration du radon dans l'habitation privée. Et ensuite, définir une limite avec des départements, comme si le gaz s'arrêtait à la frontière d'un département, c'est quand même un peu limité. Hein. C'est un peu l'idée aussi du nuage de Tchernobyl qui se serait arrêté à nos frontières en 86. Eh bien là, c'est pareil, en Bretagne par exemple, il y a un risque radon dans le Finistère, dans le Morbihan, dans les Côtes d'Armor, mais pas en Ille-et-Vilaine. Hein. Alors qu'en Ille-et-Vilaine, on trouve du radon. En Loire-Atlantique, on trouve du radon aussi. Et j'ai même un exemple très très parlant, en Vendée par exemple, qui était un département vraiment pas à risque radon, qui est plutôt un département où il y a beaucoup d'argile, donc pas beaucoup de matière forcément à radon, et bien une mesure a été faite dans une école par un professionnel, et ils ont relevé dans cette école 20 000 becquerels par mètre cube de radon, ce qui est une valeur énorme. Je reviendrai après sur les valeurs, les recommandations, etc. Mais enfin 20 000 becquerels, c'est énorme, énorme. Alors qu'on était dans un département qui n'est pas à risque radon. Donc voilà un peu pour les régions. Et si on essayait de faire une carte de France en prenant en considération la géologie du sol, hein, donc toutes les roches qui peuvent contenir de l'uranium-238, celles que j'ai précisées tout à l'heure, les schistes, les calcaires uranifères, les phosphates, les basaltes, etc., on aurait à peu près 75 départements qui seraient à risque radon au lieu de 31. Donc il faut vraiment se méfier de ces éléments très officiels et très statués qui ont tendance à limiter la problématique. Hein. Et même à Paris, hein, qui n'est pas un département à risque radon, on peut trouver... il suffit en fait qu'il y ait un gramme ou quelques grammes d'uranium-238 dans un coin. On a la maison posée au-dessus de ce gramme ou de ces quelques grammes d'uranium-238. Une roche un peu poreuse ou une faille dans la roche, etc. Et dans la maison, voilà, on va avoir beaucoup de radon, alors que les maisons qui sont autour et qui ne seront pas au-dessus de ces quelques grammes d'uranium-238 n'auront pas de gaz radon. Alors que cette maison en aura. Donc c'est très très particulier. Quoi.
Que se passe-t-il avec l'uranium-238 ? Il rentre en réaction chimique avec des constituants autres à côté et il suppure du radon. Que se passe-t-il au juste ?
Alors, ce qui se passe au juste, c'est qu'on est dans ce qu'on appelle les éléments radioactifs. Les éléments radioactifs, tout se passe dans le noyau, donc un élément, un atome, je le précise comme ça, est composé d'un noyau hein, et puis d'électrons qui tournent autour. La particularité des éléments radioactifs, ils ont des noyaux extrêmement lourds hein, par rapport à d'autres atomes classiques et extrêmement instables. Et donc au bout d'un certain temps, donc ça dépend des éléments, ça peut être quelques heures, quelques jours, quelques secondes, mais quelques milliards d'années pour certains, au bout d'un certain temps, ces atomes vont se transformer. Le noyau va perdre quelques éléments, des nucléons, donc soit des protons, soit des neutrons. Et donc, par cette perte de nucléons, il va y avoir une production d'énergie, donc un rayonnement, et un autre élément va se créer. Hein, donc on appelle ça la chaîne de désintégration ou de transmutation des éléments radioactifs. Et donc par exemple, l'uranium-238, qui a ce qu'on appelle une demi-vie, on parle de demi-vie dans les éléments radioactifs de 4 milliards d'années, donc voilà, ça veut dire qu'on en a, on en a encore pour longtemps du radon, ça ne va pas se régler au jour d'aujourd'hui. Et bien cet élément uranium-238 va se transformer en thorium, qui lui-même va se transformer en palladium au bout d'un certain temps, puis en uranium-234, puis en thorium-230, puis en radium-226, jusqu'à aboutir jusqu'au radon-222. Voilà, le radon-222, c'est vraiment celui qu'on mesure et qui est à l'origine de cette problématique.
Et dont on parle maintenant.
Et cette transformation, on le verra plus tard dans les effets sanitaires, n'est pas finie. Le radon est un élément qui lui-même se transforme au bout de quelques jours en polonium, en plomb, donc en polonium-218, j'y reviendrai, en plomb, en bismuth, en polonium-214, en plomb-210, etc., etc., jusqu'à finir en élément stable, qui est le plomb. Donc ce sont des petites particules de plomb extrêmement fines, hein, invisibles même à l'œil nu. Tous les éléments, les chaînes de radioactivité comme ça, issues de l'uranium ou du thorium, finissent en plomb, c'est le dernier élément stable qui après ne se transforme plus. C'est ça une chaîne de désintégration. Hein. Donc c'est des éléments qui, au bout d'un certain temps, le noyau se transforme, perd des nucléons et se transforme en un autre élément, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir un élément stable. C'est cette particularité qu'on utilise dans les centrales nucléaires, hein, parce que ça dégage une énergie à chaque fois que le noyau se transforme. Hein.
Donc pour résumer, quand on a de l'uranium-238, quelques microgrammes suffisent, pas loin de chez soi, oui. Il y a ce processus de désintégration,
voilà,
qui se produit.
Exactement.
Et donc ça produit ce gaz qui est lui-même radioactif et lui-même en transmutation.
Exactement, parce que chaque élément qui va se transformer va produire un rayonnement. Donc dans les rayonnements radioactifs, il y en a de plusieurs natures. Les plus répandus, les plus connus, ce sont les rayonnements alpha, les rayonnements bêta et les rayonnements gamma. Donc ils sont de différentes natures, je vais quand même en dire deux mots pour bien comprendre la problématique et être clair. Les rayonnements les plus pénétrants et les moins problématiques, c'est les rayonnements gamma, qui sont des rayonnements plutôt électromagnétiques, là en l'occurrence. Donc ça perfore des murs, enfin ça transperce des murs de béton de plusieurs mètres d'épaisseur. Alors c'est les moins nocifs biologiquement, mais c'est les plus pénétrants. Hein. Donc ça peut brûler la peau, etc. Enfin ça pose problème. Ensuite on a les rayonnements bêta, qui peuvent être freinés facilement avec une feuille d'aluminium ou une feuille de métal. Et ensuite les moins pénétrants, ce sont les rayonnements alpha, qui sont simplement arrêtés par une feuille de papier. Par contre, ce sont les plus problématiques au niveau de la santé, au niveau de la biologie. On dit que c'est les plus ionisants, c'est-à-dire que dès l'instant où ce rayonnement alpha rentre en collision avec un autre atome, qui peut être la composition d'une molécule biologique, de la peau par exemple, etc., va ioniser cet atome, c'est-à-dire va exploser les électrons. Donc les électrons vont se disperser, on appelle ça la ionisation, et donc vont transformer la matière. Hein, donc c'est les rayonnements alpha qui sont les moins pénétrants, mais qui sont les plus nocifs biologiquement. D'accord.
Je me risque à une spéculation, une supputation. Du radon émane des rayonnements alpha.
Exactement, c'est-à-dire que quand le radon se transforme, enfin quand le radium 226 se transforme en radon 222, ça produit un rayonnement alpha, effectivement. Et ensuite, comme je disais tout à l'heure, de toute façon, ce radon, lui, va continuer sa transformation et va produire du polonium, du plomb, du bismuth, etc., qui à chaque fois va faire un type de rayonnement. Ça peut être encore de l'alpha, ça peut être du bêta, etc. Bon, c'est beaucoup de l'alpha, hein, sur cette chaîne de désintégration. Alors, on peut peut-être parler maintenant tout de suite de l'impact sanitaire, biologique de ce gaz. Donc, effectivement, vous l'auriez compris, c'est pas une radioactivité qui est nocive sur la peau en tant que brûlure, etc., parce que j'ai dit, la particule ne traverse pas la peau. Par contre, on l'avale, on l'inhale, c'est-à-dire que cette particule alpha qui se libère, elle va se fixer par différence électrostatique, on va dire, sur les particules fines qui sont en l'air, en suspension. Vous voyez, quand vous avez un rayon de soleil qui traverse une fenêtre, vous voyez plein de toutes particules qui flottent dans l'air, des poussières, etc. Donc cette particule alpha va se fixer sur ces poussières, et puis on va les inhaler au fur et à mesure. Et donc au fur et à mesure qu'on va les inhaler, évidemment cette particule alpha va rentrer dans les poumons et va continuer sa désintégration et sa transformation. Hein. Donc biologiquement, il semblerait que c'est pas vraiment le radon, enfin cette particule radon 222 qui soit problématique pour la santé, mais c'est surtout les éléments qui deviennent après, qui se transforment après, et notamment le polonium 210 et le polonium 214, hein, qui sont des éléments extrêmement ionisants, extrêmement forts. Il y a eu plusieurs assassinats,
oui, oui,
qui sont soupçonnés d'avoir été faits
au polonium.
Donc quand on a une particule alpha avalée et qu'on a dans ses poumons, au fond des alvéoles pulmonaires, eh bien ça se transforme en polonium. Et donc ça peut transformer les alvéoles pulmonaires et déclencher donc un cancer du poumon à terme. C'est donc l'enjeu ou le risque sanitaire premier.
Alors, on peut reparler aussi des cycles de vie, hein, des cycles de demi-vie, parce que oui. Quelle est la rapidité de transmutation de ces éléments? C'est pas quand même instantané. Toute cette chaîne, vous avez parlé de 4 milliards d'années.
4 milliards d'années pour l'uranium.
Pour une demi-vie. Oui. Donc, si on s'en tient du radon au polonium, combien de temps il met pour se transformer de radon en polonium?
Alors, suivant les éléments, par exemple, entre le radon 222 et le polonium 218, c'est 3 minutes. D'accord? Donc, on a avalé un élément radon, par exemple, au bout de 3 minutes, on a du polonium dans le poumon.
Oui, alors à ce moment-là, il a à peine le temps de sortir de terre qu'il s'est déjà transformé en polonium aussi.
Oui, évidemment, si on parle d'un élément, mais s'il y a une grande quantité de gaz, plus la concentration, tout ça, il y a une concentration. Si évidemment on a, donc j'y reviendrai sur la concentration, si on a 10 becquerels mètre cube dans une pièce, on a peu de risque d'en avaler une particule alpha, d'accord? S'il y a 20 000 becquerels dans une pièce, eh ben on a davantage de risques d'avaler cette particule alpha. Donc même avec le temps, s'il y a une concentration qui est forte, eh bien on a davantage de risques d'avaler cette particule alpha et donc la transformation se fera dans le poumon, effectivement. Et après, au niveau du temps, les autres éléments se transforment très vite. C'est 26 minutes après pour le plomb 214, 19 minutes après pour le bismuth, 63 microsecondes pour le plomb 214. Bismuth après 5 ans et à nouveau polonium au bout de 138 jours. Donc voilà, après chaque élément a un temps de demi-vie qui est vraiment spécifique à lui, qui ne ressemble pas aux autres. Mais en tout cas, la transformation radon et polonium 208 va très vite, c'est 3 minutes quoi. Voilà, donc comme on est sur le plan un peu biologique, que j'explique là comment ça se passe, comment on l'inhale, donc en tout cas la problématique c'est l'inhalation, hein, c'est pas le contact, c'est le fait d'en avaler. Cette problématique est liée à donc cette concentration qu'on a dans les maisons. Et effectivement, dans l'air libre, il y a aussi du radon. Hein. Il y en a, comme je disais, partout. La différence, c'est qu'à l'air libre, dans le champ d'à côté de la maison, eh bien, ce radon va se dissiper dans l'air et va se perdre en fait, hein, dans les masses atmosphériques. La problématique de l'habitation, c'est que ce gaz se concentre en fait. Et donc, la maison va faire qu'on va en absorber, on va en aspirer davantage qu'à l'extérieur, et puis on va avoir un phénomène de concentration. Donc le gaz ne va pas s'échapper facilement, et donc de ce fait de concentration, on a un risque évidemment supplémentaire d'en inhaler qu'à l'extérieur. Donc cette concentration dans l'habitation se fait par plusieurs phénomènes. Alors premièrement, évidemment, par la nature du sol, par la quantité d'abord d'uranium qui va se dégager du sol. Ensuite, par le fait des couches géologiques, c'est-à-dire que si on a des couches très poreuses ou des failles, des fissures dans la roche géologique, ça j'en reparlerai dans l'intérêt aussi de la géobiologie, de la détection pure, de savoir s'il y a des failles sur un terrain, va faire en sorte que ce gaz va remonter. Ça peut être un puits, il va remonter, voilà, plus le sol va être poreux ou plus il y a des fissures, plus il va remonter facilement aussi. Si on a une couche d'argile, par exemple, dans le sous-sol, ça va empêcher un peu le gaz de remonter. Donc, ça dépend déjà de la nature du sous-sol. Et encore une fois, un terrain peut être propice au radon et s'en mettre à côté complètement différent. Donc, ça, c'est important de le signaler. Ensuite, il y a évidemment la nature de la construction qui va jouer son rôle aussi. Alors, ce qu'il faut d'abord prendre en considération, c'est qu'une maison posée sur un sol crée physiquement une dépression sur le sol. C'est-à-dire que les masses atmosphériques, l'air qui appuie sur les murs extérieurs des maisons crée à l'intérieur de toute façon une dépression. Si on mesure ça, on a toujours dans une maison habituellement une dépression, c'est-à-dire une pression atmosphérique inférieure qu'à l'extérieur. Donc ça crée un phénomène d'aspiration et des mesures très précises ont été faites sur ce sujet par rapport au radon. Il suffit d'une différence de 0,1 pascal en dépression pour qu'il y ait plus de radon dans la maison qu'à l'extérieur. Donc il suffit d'une très faible dépression pour qu'on aspire plus de radon dans une maison qu'à l'extérieur. Ensuite, dans cet aspect dépressionnaire là, il faut savoir qu'on rajoute de toute façon de l'effet de dépression par la VMC la plupart du temps. D'accord ? C'est-à-dire que la VMC, c'est quoi ? On aspire de l'air dans la maison et on la recrache à l'extérieur. Donc on accentue la dépression, on accentue l'aspiration. On a des hottes électriques qui vont accentuer la dépression. Les systèmes de chauffage, certains systèmes de chauffage vont accentuer la dépression, etc. Donc tout ça va faire en sorte que dans une maison, on va plus aspirer du radon qu'à l'extérieur toujours. Et ensuite vient les principes constructifs. Donc une maison, par exemple, avec un sous-sol, donc que le sous-sol soit habité ou pas, donc ça peut être un vide sanitaire ou un sous-sol vraiment type garage, etc. Très peu aéré, très peu ventilé. Eh bien, va faire en sorte que le radon va se stocker, va se concentrer là. Et puis, malgré que je disais tout à l'heure que la particule radon ne traverse pas une feuille, le radon, lui, étant un gaz, traverse tout, hein, parce que le béton n'est pas étanche au gaz, le PVC n'est pas étanche au gaz. Il y a des micro-fissures partout dans votre dalle à béton. Donc, au bout d'un moment, si on a beaucoup de radon qui arrive dans ce sous-sol, il finit par traverser la dalle et puis on en a du coup dans son salon. Après, ce que je peux dire en généralité, j'aime pas trop les généralités parce que la mesure, on se rend compte que de faire des mesures, généralement, ça rentre en opposition aux généralités, mais je vais quand même le dire, c'est que on a deux fois moins de radon à un étage qu'au rez-de-chaussée. Hein. C'est-à-dire que plus on monte dans les étages, généralement, on diminue par deux la concentration de radon. Imaginons qu'on a 1000 becquerels mètres cubes au rez-de-chaussée, on en a 500 au premier étage et puis 250 au troisième étage. C'est à peu près ça qui se passe, mais encore une fois, pas tout le temps et pas systématiquement. Mais l'idée générale est un petit peu celle-ci. Et ensuite, il y a les matériaux qui vont rentrer en ligne de compte parce que tous les matériaux alvéolés, comme les parpaings par exemple, les agglomérés, les blocs béton, peuvent garder un peu de radon, concentrer du radon. Les murs double cloison peuvent garder aussi du radon. On peut faire des fois des mesures assez intéressantes dans les cloisons directement pour voir et se rendre compte qu'il y a du radon qui se stocke là. Et donc les matériaux pleins, style du bois massif, etc., vont éviter de stocker du radon. Hein, voilà. Donc c'est une problématique qu'on a toujours tendance à simplifier alors qu'elle est assez complexe dans une maison d'habitation.
Monsieur Monnier, pourquoi parle-t-on plus spécifiquement du radon de nos jours et que faudrait-il faire pour s'en protéger ?
Alors, on en parle un peu plus de nos jours et encore, personnellement, moi je trouve qu'on n'en parle pas assez. Hein. Moi j'essaye justement de faire parler de cette problématique parce qu'encore une fois, c'est un polluant vraiment majeur. Je ne l'ai pas signalé quand même, hein, mais le ministère de la Santé fait cette estimation de entre 1800 et 2900 morts par an liés à ce gaz radon. Donc liés seulement à ce gaz radon, hein, sans prendre en considération la pollution atmosphérique, la cigarette, le cancer du poumon par la cigarette. Donc que sur la problématique du radon, c'est entre 2000 et 2900 morts par an. Donc c'est pas rien quand même.
Et puis on n'envisage pas non plus la dégradation de la santé induite qui ne débouche pas forcément sur une mort. Ça peut être aussi qu'on est affecté sans en mourir.
Tout à fait, tout à fait. Alors sauf que bon, le cancer du poumon, c'est quand même le cancer le plus mortel. Hein,
il y aura une causalité entre radon et cancer du poumon?
Ah ben, c'est la seule connue et vérifiée et officielle. Effectivement, c'est ça. C'est le cancer du poumon. Alors peut-être qu'on fait les choses à l'envers. Je vais d'abord répondre à la question de pourquoi on en parle plus maintenant qu'avant. Alors déjà parce qu'effectivement on en sait plus, hein. Il y a les études voilà ont été confirmées, il y a eu des études européennes, des méga études qui ont finalisé un petit peu ça, même si le radon est classé cancérogène certain par le CIRC depuis 1988, hein. Donc c'est quand même pas nouveau, qu'on sait que c'est vraiment dangereux. Mais par contre, là où c'est important qu'on en parle plus aujourd'hui, vous aurez bien compris aussi que ces phénomènes de concentration dont je parlais tout à l'heure dépendent beaucoup de l'aération et de la ventilation des maisons. Hein. C'est-à-dire qu'une maison peu ventilée, peu aérée, va forcément concentrer du radon plus qu'une maison qui est bien ventilée. Et rappelez-vous les maisons qu'on avait de nos grands-parents, de nos parents et surtout de nos grands-parents, qui n'avaient pas d'isolation, qui avaient des fenêtres simples vitrages. Enfin, il y avait de l'air qui passait partout, quoi. Hein. Il n'y avait pas besoin de VMC à cette époque-là. L'air passait partout, les maisons n'étaient pas étanches. Aujourd'hui, avec cette pensée à tout prix de vouloir faire des économies d'énergie, qui évidemment sont importantes, il faut les faire, eh bien on sacrifie encore une fois bien souvent la qualité de l'air. Et donc la problématique là du radon se rajoute à ça, dans le sens où on étanchéifie les maisons, et bien plus on les étanchéifie, plus on a tendance à concentrer les polluants et la problématique du radon est dedans. Hein. Quand on a dans une maison BBC un renouvellement d'air de 16 mètres cubes par heure par personne, alors que pour avoir un habitat sain et un bon renouvellement d'air, il faudrait 53 mètres cubes par heure et par personne, et bien voilà, on a un phénomène de concentration de ce gaz qui se joue. Donc c'est pour ça qu'on en parle un peu plus maintenant. Et surtout que, voilà, connaissant mieux les choses, on peut construire en tiradon assez facilement, encore une fois. Hein. C'est-à-dire que construire en tiradon, ça ne coûte quasiment pas plus cher qu'une maison normal, quoi.
Faudrait la mettre en surpression déjà.
Oui, alors on peut faire du coup des maisons BBC effectivement en surpression. Sinon, l'idée la plus facile, je dirais, c'est de la créer sur vide sanitaire extrêmement aéré ou sur pilotis. Hein, du coup, on a une ventilation qui se passe sous la maison. Si on est sur un sol à risque radon, eh bien, on peut mettre éventuellement en plus un voile anti-radon, hein, c'est-à-dire un film anti-radon spécifique étanche au gaz. Et là, on est sûr de ne pas avoir de radon qui va passer la dalle et puis qui va se concentrer dans la maison. Hein, mais voilà, on peut considérer une maison sur pilotis ou une maison sur un vide sanitaire très aéré. Alors, très aéré, ça veut dire très aéré, hein, c'est-à-dire avec des trous de 200 mm de diamètre minimum, tous les 4 mètres, sur les vents dominants, à l'opposé des vents dominants, pour créer une vraie circulation d'air, et que ces trous, ces aérations, ne soient jamais bouchés, parce qu'il y a aussi des choses qu'on bouche par le temps, vous avez déjà vu ça, des sous-sols, voilà, il y avait des grilles, ben on les ferme, on met des portes devant pour éviter qu'il y ait trop de froid et qu'ils passent, donc au niveau de la thermique, ça se comprend, mais au niveau de l'aération, c'est très très mauvais, hein, donc il faut évidemment que ces aérations ne soient jamais bouchées. Donc techniquement, on trouve ces solutions-là, et même effectivement, si on veut construire une maison avec les normes BBC, donc bâtiment basse consommation, eh bien, on peut trouver ces solutions par ce qu'on appelle de la VMI, c'est-à-dire la ventilation mécanisée par insufflation. Donc là, on prend de l'air à l'extérieur, en toiture, qu'on réchauffe avec une petite résistance. Donc là, il y a un petit coup électrique qu'il faut considérer, et puis on pousse l'air dans la maison. Donc là, effectivement, on met la maison en surpression qui évite toute concentration du gaz dans la maison. Hein, ça fait partie d'ailleurs des systèmes qu'on peut mettre aussi en place dans un bâti existant pour limiter une problématique radon.
Et je suppose que la dernière mesure et la plus évidente serait de ventiler, d'ouvrir les fenêtres le plus qu'on peut. On en revient à cette problématique qu'on avait déjà évoquée oui. lors de la précédente émission sur la qualité de l'air. Aéré est important.
Exactement, c'est des réflexes vraiment que tous on a perdus, mais il faut penser, même là, oh, voilà, on a plein de journées en ce moment où il fait assez beau, mais il fait froid le matin, et ben on ouvre les fenêtres en grand, on crée un courant d'air pendant un quart d'heure, 20 minutes, on referme après, tant pis, on a perdu un peu de degrés, mais il faut le faire, on a renouvelé l'air frais de sa maison, on a évacué les pollutions, les l'air vicié, enfin tout ça il y a très extrêmement important qu'il faut faire matin et soir, au moins ça quoi. Alors ça peut ne pas suffire, hein. Tout va dépendre vraiment de la concentration, c'est pour ça encore une fois que la mesure, évidemment, moi je fais un travail de mesure, donc j'essaye d'exprimer ça le mieux possible, mais c'est extrêmement important. Elle va permettre de définir le niveau de concentration et justement qu'est-ce qui va être nécessaire de mettre en place pour évacuer ce radon. Effectivement, peut-être là je vais en parler, donc le radon se mesure en becquerel par mètre cube. Le becquerel, c'est une unité de mesure de la radioactivité qui correspond à une désintégration par seconde. Hein, donc on a, si on a 100 becquerel mètre cube, ça veut dire qu'on a 100 désintégrations de radon là, qui se déroulent par seconde par mètre cube. Et effectivement, si on a 100 ou 200 becquerels mètre cube, et si on a 5000 ou 6000 becquerels mètre cube, eh ben on va pas avoir les mêmes remédiations ou les mêmes solutions, parce qu'effectivement, 200 becquerels mètre cube vont facilement s'évacuer en accentuant la ventilation naturelle de la maison, hein, donc on ouvre un peu plus les fenêtres, on peut accentuer aussi, positionner des grilles d'aération, si elles ont été bouchées ou s'il n'y en a pas, eh ben on va en mettre, etc. Si on a 5000 ou 6000 becquerels mètre cube, ça ne suffira pas. Hein, on va faire descendre à 4000, 4005, peut-être 3005, mais 3005 c'est toujours énorme.
Ça veut dire qu'il y a une là, vraie source de radon quelque
radon
part.
Importante, voilà. Et donc là il va falloir mettre en place des systèmes de remédiation qui peuvent être effectivement parfois coûteux, pas toujours simples à mettre en place, mais encore une fois, voilà, il faut savoir ce qu'on veut, si on veut ne pas s'en occuper et puis fermer ses yeux et puis vivre avec ce risque-là, pourquoi pas, ou faire en sorte de vivre sans. C'est toujours un choix, encore une fois, il n'y a pas de réglementation, c'est un choix personnel. Juste une parenthèse sur la réglementation, c'est ce que moi je fais aujourd'hui et pourquoi on m'invite à faire des mesures aujourd'hui qui n'est pas une réglementation officielle, c'est un choix personnel, ça peut le devenir. Il faut savoir que là j'ai une proposition de texte de loi qui date de 2012, réalisée par des députés, et donc c'est un projet de loi de légiférer sur le radon pour l'habitat privé, hein, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a effectivement une loi sur le radon qui concerne essentiellement donc ces 31 départements à risque que j'ai signalés. Donc pour ceux qui veulent savoir quels sont ces départements à risque, il suffit d'aller sur n'importe quel site officiel, IRSN ou ASN. Voilà, on trouve ces informations facilement. Et donc dans ces 31 départements à risque, quelques bâtiments particuliers, ce qu'on appelle des ERP, donc des établissements qui reçoivent du public, doivent être, et donc certains ERP, pas tous, hein, donc les certains ERP, c'est les hôpitaux, les centres thermaux, les écoles et les centres socio-médicaux qui ont de l'hébergement. Voilà, ces types de bâtiments ERP qui reçoivent du public doivent être testés au radon officiellement dans ces 31 départements à risque.
Avec une périodicité ou une fois
oui.
pour toutes?
Non, bah tous les 10 ans.
Tous les 10 ans.
Ouais, tous les 10 ans, ils doivent être testés. Et donc, pour ces bâtiments, évidemment, il y a une norme. Hein. Donc, il n'y en a pas dans l'habitation privée, là où on passe le plus de temps. Hein. Je pense qu'on l'a déjà assez dit. Mais dans ces bâtiments publics où on est censé y passer un peu de temps, voilà, il y a des normes. Hein. Alors, cette norme, elle dit quoi? Elle dit qu'en dessous de 400 becquerels mètres cubes, tout va bien. Hein. Il n'y a pas de problème. Que de 400 à 1000 becquerels mètres cubes, le bâtiment doit effectuer des remédiations, on va dire, assez simples pour faire diminuer le taux à 400 becquerels mètres cubes. Donc, c'est accentuation de la ventilation, aération, etc. Et au-delà de 1000 becquerels mètres cubes, il faut une intervention lourde pour faire diminuer cette concentration. Et suivant le niveau de concentration, le bâtiment peut même être fermé par décision préfectorale, hein, en fonction de la concentration du radon. Donc voilà la norme française qui ne correspond à que quelques bâtiments dans quelques départements. En dessous de 400 becquerels, tout va bien. De 400 à 1000 becquerels, première remédiation de base. Et au-delà de 1000 becquerels, remédiation complète. D'accord ? En comparaison, aux États-Unis, une loi a été faite de construction anti-radon un an après que le CIRC a déclaré le radon comme cancérogène certain.
En 88.
Donc en 89, les États-Unis ont légiféré pour les bâtiments privés, donc les habitations, construction en dessous 150 becquerels mètre cube. Voilà. Donc on a appris à construire anti-radon et s'il y a des remédiations, enfin si le bâtiment était déjà existant, on fait des mesures et puis on remédie.
Principalement en mettant donc des films anti-passage de gaz.
Oui, alors ça, c'est surtout à utiliser dans la construction neuve. Après, on peut la mettre en place en rénovation, mais c'est pas très simple. Hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment bien étanchéifier le sous-sol. Ça se fait, on sait le faire. Après, voilà, c'est pas des solutions, évidemment. Faut pas dire ça se fait en claquant des doigts. C'est pas toujours très simple à faire, mais ça peut se faire. Voilà. Je continue sur mes normes et mes recommandations. Donc 150 becquerels mètre cube, ça c'est pour la norme aux États-Unis. En Suisse, c'est 100 becquerels mètre cube. Donc c'est une recommandation, enfin une norme qui existe pour un certain label. Hein. C'est des maisons qui sont classées Minergie, donc un peu comme le BBC en France, si vous voulez. Mais du coup, dont la problématique radon est considérée et pour laquelle cette norme de 100 becquerels mètre cube a été validée. Sinon, au niveau européen, on peut dire que le Conseil de l'Europe préconise et incite les États membres à légiférer avec une réglementation, donc pour le bâti privé, hein, à moins de 200 becquerels mètre cube. Et l'OMS préconise une valeur seuil de 100 becquerels mètre cube. Voilà, hein, pour vous donner un peu une nuance, enfin des différences qui se jouent. Donc on va dire que 100 becquerels mètre cube étant un peu le seuil de base un peu officiel. Nous, en Habitat Sain, on va même chercher un petit peu en dessous. On va essayer de se placer en dessous de 60 becquerels mètre cube qui semble être une valeur en dessous laquelle le risque semble nul. Je dis semble parce qu'en radioactivité, il n'y a pas de risque zéro, véritablement. Hein. Mais on va dire qu'en dessous 60 becquerels mètre cube, on est vraiment sur des niveaux très faibles et qu'on peut atteindre. Hein. Ce n'est pas utopique, même si on a des fortes concentrations. Moi, j'ai eu le cas, voilà, comme j'ai déjà dit, je viens de Bretagne, et donc je connais un bâtiment ERP qui a été labellisé HQE, donc haute qualité environnementale, un bâtiment tout neuf qui a été livré en 2003 par un architecte réputé. Une sorte de maison de retraite, mais hospitalisée pour des gens âgés et malades. 3 ans après, en 2006, donc une étude radon officielle a été faite dans ce bâtiment, puisqu'on était dans le Morbihan, donc département à risque. Et il y avait entre 3000 et 8000 becquerels mètres cubes dans les bâtiments, donc 3 ans après. Donc évidemment, il y a eu des remédiations qui ont été faites, des remédiations faciles dans certaines ailes du bâtiment et des remédiations lourdes dans d'autres ailes du bâtiment. Mais on a réussi, enfin c'est pas moi qui m'en suis occupé, mais la personne qui s'en est occupée a réussi à faire descendre ce taux en dessous de 60 becquerels mètre cube. Voilà.
Alors comment vous le mesurez ça? Vous avez un instrument pour calculer le nombre de becquerels? Ça fait bip bip, il mesure la radioactivité?
Alors non, ça c'est une bonne question aussi, c'est important de le préciser, on ne mesure pas le radon avec un compteur GGR, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Alors après, on peut faire une mesure de compteur GGR sur un terrain, et si on a une forte valeur au compteur GGR, se dire il y a un risque radon qui va en découler hein, quelque part, mais c'est pas une mesure de radon. Comme j'ai dit tout à l'heure, le radon c'est un rayonnement alpha, et la plupart des compteurs GGR ne prennent pas en compte ce rayonnement alpha. Hein. Ils mesurent surtout du rayonnement bêta, gamma, et du rayon X pour certains, mais en tout cas pas de rayonnement alpha, donc la mesure du radon c'est vraiment une mesure spécifique. Alors comment on mesure le radon? J'aurais pas pu apporter mon appareil et faire une mesure ici, enfin j'aurais pu techniquement, mais ça aurait pas apporté grand chose. La mesure du radon doit se faire sur plusieurs jours. Hein, parce que l'émanation du gaz, c'est pas comme une cocotte minute qui siffle à plein pot sans arrêt. Tout va dépendre de la pression atmosphérique, du taux d'humidité dans l'air, il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer en ligne du compte et qui vont créer des variations de cette émanation, de cette exhalation du gaz. Il y a des différences nyctémères, c'est-à-dire entre le jour et la nuit. Il y a des différences entre l'été et l'hiver. Je reviendrai là-dessus parce qu'il y a une information importante à donner. Donc c'est une mesure qui se fait sur plusieurs jours. L'idéal, c'est de la faire sur une période de 15 jours, un mois. Moi, j'ai un appareil donc, qui enregistre. Il ressemble presque à un radar, comme on voyait un peu sur le bord de la route avant. On le met sur trépied, on le laisse dans un salon. Et moi, je fais une mesure au moins minimum sur 4 jours. Voilà, ça permet d'avoir quand même une évaluation, c'est une photographie. Après, on va dire que les mesures officielles qui sont retenues par les organismes d'État pour faire des mesures dans les ERP n'est pas celle-ci. Eux, ils utilisent, moi je peux le faire aussi à la demande, mais je trouve moins pertinente cette mesure. Ils utilisent des films, un petit peu comme des films argentiques d'appareils photo. D'ailleurs, à l'origine, c'est Kodak qui a créé ces films. Donc, ce sont des capteurs qu'on laisse pendant au minimum 2 mois dans la maison, qu'on renvoie en laboratoire. Et donc, ces films vont finir par le temps par être complètement perforés de tout petits trous. Voilà, le film a réagi aux désintégrations de ce gaz. Donc, les films sont regardés au microscope. Ils comptent les petits trous au centimètre carré. Et puis, par une extrapolation, un calcul mathématique, on arrive à une concentration par becquerel par mètre cube. Donc voilà, c'est cette technique de mesure avec ce film, c'est la mesure officielle qui est choisie. Après, moi, je la trouve pas pertinente parce qu'elle donne une valeur aux gens. C'est-à-dire que vous recevez votre rapport et on vous dit, bah voilà, vous avez tant de becquerels mètre cube dans votre maison, mais sans vraiment comprendre ce qui se passe. Alors que quand on fait une mesure avec un appareil de mesure qui enregistre les valeurs au fil du temps, eh bien, on peut voir ce qui se passe en fonction aussi de comment on réagit dans la maison. C'est-à-dire qu'on peut faire une mesure sans rien y faire, voir ce qui se passe, et faire une mesure aussi en ouvrant les fenêtres, en coupant la VMC, en réagissant différemment dans la maison, en aérant, et voir directement ce qui se passe dans la mesure. Et du coup, ça peut aider sur les techniques de remédiation.
Monsieur Monnier, vous avez encore apporté une chanson pour aérer ce sujet qui, encore une fois, se trouve dense et touffu. Alors, oui, laquelle proposeriez-vous ?
Eh bien, je vous propose un artiste que j'ai découvert il y a peu de temps, puis un artiste local, donc c'est peut-être intéressant de le faire connaître, qui s'appelle François Buffaut, qui fait de la chanson française, qui est un très bon musicien. Et donc, j'avoue que je ne sais plus le titre parce que je ne connais pas encore son album par cœur, donc je vous propose la première piste et vous direz ce que vous en pensez.
C'est parti !
C'était la première fois, tant pis si c'est la dernière fois. Pourvu que ce soit avec toi, tant pis si c'est la dernière fois. Croquer d'un coup un grain de sel sur la tomate entre les dents. Face à la mer et voir le ciel rougir du soleil touchant. Comme si c'était la première fois, tant pis si c'est la dernière fois. Pourvu que ce soit avec toi, tant pis si c'est la dernière fois. S'enivrer des odeurs de feuilles et des silences du sous-bois. Et jouir d'un baiser que l'on cueille du bout des lèvres, du goût des doigts. Comme si c'était la première fois, tant pis si c'est la dernière fois. Pourvu que ce soit avec toi, tant pis si c'est la dernière fois. Écouter courir la rivière, emporter nos éclats de rire. Sauter pieds nus de pierre en pierre, j'aime et pouvoir le dire. Comme si c'était la première fois, tant pis si c'est la dernière fois. Je suis heureux puisque c'est toi, tant pis si c'est la dernière fois. Comme si c'était la première fois, tant pis si c'est la dernière fois. Que ce soit avec toi, tant pis si c'est la dernière fois.
écoutez donc toujours RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Nous sommes toujours avec Bruno Monnier et nous continuons à parler de radon. Alors, toujours la même chose, monsieur Monnier. Moi, j'aimerais bien vous interpeller d'abord sur l'évaluation de la dangerosité de ce gaz et surtout localement. Parce que vous avez dit qu'effectivement, il y avait des départements à risque et la Drôme, heureusement, apparemment, mais ceci dit, vous avez bien précisé qu'il fallait s'en méfier de ce genre de classement. Que la Drôme n'était pas un des 31 départements à risque. Alors, est-ce qu'on pourrait évaluer dans le Diwa, puisque nous sommes dans le Diwa, le danger du radon et à partir de quand peut-on se sentir en danger?
Alors, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, le danger, il est avec la radioactivité, il n'y a pas de risque zéro. Hein, ça, c'est clair et net. Hein, ce n'est pas une courbe parabolique où on a très peu de risques et puis au fur et à mesure de la concentration, on a de plus en plus de risques. Hein, c'est une ligne droite. Hein, là.
Vous-même, ici, avec vos engins, vous avez détecté du radon?
Oui, alors moi, j'ai fait une mesure dans ma maison, par exemple. Alors, ce que je n'ai pas précisé dans la mesure et ce qui est important de le préciser, on fait toujours une mesure, là, c'est officiel, mais c'est aussi dans mon cas, on fait toujours une mesure entre septembre et avril parce qu'évidemment, on fait cette mesure dans la période d'hiver, là où il y a le plus de radon qui s'échappe du sol, premièrement, et ensuite c'est là où il y a la concentration la plus importante dans les maisons, puisque c'est l'hiver, on chauffe, on n'ouvre pas beaucoup ses fenêtres, on n'aère pas, donc on va avoir une valeur la plus élevée. Hein, si on fait une mesure l'été, c'est pas très pertinent, évidemment qu'on peut le faire techniquement, mais c'est pas très pertinent, parce qu'on aura une valeur la plus basse. Hein, donc il vaut mieux avoir la valeur la plus haute, de savoir ce qui se passe à la plus forte concentration. Donc ça c'est important de savoir, on fait toujours des mesures entre septembre et avril. Et effectivement, chez moi par exemple, donc c'est une maison des années 70, avec un sous-sol qui est un petit peu aéré mais pas beaucoup aéré, et bien j'ai quand même 120 becquerels mètre cube. J'ai fait cette mesure il y a à peu près un mois et demi, deux mois, donc j'ai quand même 120 becquerels mètre cube. Hein. Donc c'est pas une énorme valeur, mais on se rend bien compte que alors qu'on dit en Drôme il n'y a pas de radon, et bien j'ai 120 becquerels mètre cube dans ma maison, donc j'ai un peu de becquerels mètre cube et je serai, enfin en tout cas je suis au-dessus de ma recommandation en habitat sain. Donc j'ai fait ce qu'il fallait, on aère un peu plus, j'ai refait des trous dans le sous-sol à un endroit où il y avait des trous mais ça avait été bouché, donc j'ai débouché. Et voilà. Mais en tout cas, on a du radon. Donc effectivement, après, comme je disais tout à l'heure, il y a des départements où, effectivement, suivant la nature du sol, il y en a un petit peu moins que dans d'autres. Et il se trouve que la Drôme fait partie des départements où le risque radon n'est pas très très fort. Hein, il n'y a pas beaucoup d'uranium-238 dans les sous-sols de la Drôme. Ceci dit, il peut quand même y avoir des toutes petites parties de la Drôme, donc surtout le nord-ouest, où on peut avoir quand même un peu de radon.
Parce qu'on ne serait pas sur du calcaire.
Voilà, donc il y a un petit peu plus de mélange, il y a un petit peu plus de schiste, et puis sinon, bah, il y a quand même les départements tout proches, limitrophes, hein, je l'ai dit, le Rhône et l'Ardèche, surtout l'Ardèche est un département à fort risque radon. Hein.
Parce que c'est du granit.
Il y a du granit et du schiste aussi, ouais, ouais.
Monsieur Monnier, si on s'adresse à vous pour faire un calcul, pour voir si on est affecté ou non par du radon, oui. Combien cela vaudrait une étude par vos soins?
Donc une mesure radon classique, donc l'appareil reste chez vous pendant 4 jours, enregistre avec un rapport d'étude complet suite à cette mesure, ça coûte 149 euros. Voilà.
C'est un tarif syndical.
Voilà. Ensuite, par contre, ce qu'on peut préciser, ce que j'ai pas signalé, c'est une chose qui est peu connue. On peut faire aussi des mesures de radon sur terrain nu avant construction pour estimer. Donc là, c'est sous forme de projection. On fait une mesure dans un volume donné et par un calcul mathématique, on fait une projection de ce qui pourrait se passer dans la maison. Ça, c'est, par contre, c'est une mesure officielle hein, avec une norme AFNOR de technique de mesure. Alors ça coûte quand même plus cher, mais ça peut se faire. Voilà. Hein. On fait une mesure là sur une période de 4 heures. Après, moi, j'envoie mes données chez une personne spécifique qui fait ses calculs de projection et on peut avoir une vraie projection de ce qui peut se passer sur un terrain. Donc ça, c'est important de le savoir. Voilà.
Peut-être que ça vaut le coup si on veut acheter ou pas, quoi.
Exactement. Acheter ou si on a acheté, parce que cette mesure ne peut se faire que quand le terrain est décaissé, donc ça veut dire qu'il a été acheté et que le terrassement est en cours, c'est-à-dire qu'on a enlevé la première couche de végétal, on l'enlève parce qu'il peut y avoir là des couches d'argile qui vont freiner la sortie du radon, alors qu'il faut faire la mesure en condition comme si la maison était posée dessus. Donc, décaissement fait, c'est surtout dans le principe de construction de se dire, bah tiens, je construis là, bah, à ce moment-là, si j'ai une forte concentration, je vais faire ce qu'il faut pour pas avoir de radon.
Un homme averti en vaut deux.
Exactement.
Dernière petite question, monsieur Monnier. Avec cette technique, on en parle beaucoup des gaz de schiste et de la fracturation hydraulique, mais alors ça doit faire des remontées de radon terribilissimes, ça, non?
Exactement, exactement. Ça participe à ces accentuations de radon qu'on peut appeler artificielles. Je ne l'ai pas évoqué, on ne va peut-être pas avoir trop le temps, mais effectivement, il y a de la fracturation pour le gaz de schiste, peut faire partie. Alors, il y a des départements qui sont concernés par ça. Il y a tout ce qui est résidus de mines d'uranium, donc dans le Limousin, en Bretagne, en Morbihan, par exemple, il y avait des mines d'uranium. Donc, il y avait des résidus, puisqu'on, comme je vous rappelle, on cherchait l'uranium-235 et pas l'uranium-238. Donc, l'uranium-238 restait dans les résidus, hein, ce qu'on appelle le yellow cake. Et ça a été livré par Areva, mais qui était la COGEMA à l'époque, à beaucoup de communes comme étant des remblais pas chers, parce que généralement, ils les donnaient ou ils les vendaient vraiment à prix déraisonnable. Et donc, tous ces remblais ont servi à faire des lotissements, à faire des parkings, à faire des parcs de loisirs, etc. Et donc, il y a plein d'endroits où on a un radon qui a été rajouté, voilà, pas artificiellement, mais presque, enfin, qui sont des résidus des exploitations minières de la COGEMA.
Voilà, donc encore une fois, merci de pas de nous effrayer, mais de nous aider à prendre conscience d'un certain nombre de dangers. Oui. On se revoit une dernière fois, Monsieur Mounier.
Ça sera la dernière fois.
La semaine prochaine, exactement. On se voit pour parler d'un dernier sujet qui est...
Alors, on va parler spécifiquement là de la géobiologie, c'est-à-dire de la détection sensible, comment mettre en évidence ce qu'on appelle, nous, les rayonnements telluriques, c'est-à-dire les perturbations qui vont venir simplement de la nature du sol.
Très bien. Eh bien, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Interview. Interview. Okay, the bird. Interview. L'interview du jour.